À l'occasion du salon d'édition indépendante Off Print 2022, Dieu réalise une série d'entretiens avec des éditeurs, graphistes et artistes. Ce programme est réalisé en partenariat avec le Centre national des arts plastiques. Natalia Paes-Passaquin et Fanny Millon pour les cahiers des Tipotes, en discussion avec Victoire Lebars.
Bonjour Natalia, bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, ça va.
Ça va bien, merci.
Toutes les deux, vous avez fondé le collectif des Tipotes avec Maud Bossé, il me semble, et Marie-Hélène Desestrées, ou c'est pas...
Oui, bah, c'est-à-dire qu'elles ont travaillé avec nous pour le premier livre qu'on a sorti. Mais à la base, en fait, on l'a fondé avec Fanny. Mais toute l'idée toutes dans les collectifs, on est à l'initiative du projet. Et après, l'idée, c'est que dans chaque livre, il y a des nouvelles collaborations qui se créent avec de nouvelles personnes.
OK. Vous pouvez nous raconter d'abord les prémices, l'histoire un peu du collectif que vous avez créé ?
Oui, en fait, donc moi, je suis imprimeuse typographe, en plus d'être éditrice. Et j'ai fait ça depuis 7-8 ans. Et donc, je me suis intéressée à la place des femmes dans les milieux de l'imprimerie. Juste parce que j'étais en plein dedans et que je me posais des questions par rapport au rapport des genres, justement. Et donc, je commençais à faire de la recherche. Au début, c'était vraiment que pour moi, juste pour ma curiosité. Et peu à peu, c'est devenu une sorte d'obsession où j'arrivais plus trop à m'arrêter et j'ai trouvé plein des histoires et des archives et des collectifs. Et oui, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut les diffuser, mais comment faire ça? Je n'ai pas envie de faire ça toute seule, je m'aimerais bien faire ça avec plein d'autres personnes. Et à cette époque-là, il y avait Fanny qui venait imprimer à l'atelier de temps en temps. Et du coup, juste en discutant, on s'est dit, il faut sortir un livre. Bon, comment on fait, on n'en sait rien, mais il faut faire quelque chose. Et donc là, vraiment, c'est là où tout a commencé.
Et donc oui, pour la petite histoire, j'étais en train d'apprendre l'impression typographique avec Natalia. Donc moi, je suis graphiste et éditrice de la revue Figue depuis 7 ans. Donc j'étais à l'atelier de Natalia à Lyon. Et un jour, elle m'a sorti son classeur avec toutes ses recherches, ses 5 ans de recherche. Si je peux me permettre de me préciser. Donc, c'était un classeur assez important. Et voilà, et elle m'a dit, je fais ces recherches depuis 5 ans sur les femmes, dans le milieu du livre, dans le milieu de l'impression. Est-ce que tu serais intéressée pour m'accompagner dans l'édition d'un ouvrage et pourquoi pas aussi d'une maison d'édition? Et c'est comme ça un peu que l'aventure a commencé.
OK. Et comment, après 5 ans de recherche, à quel moment tu as décidé déjà d'arrêter la recherche, de la collecte de ces histoires de femmes dans l'imprimerie et les arts graphiques? Comment tu t'es dit, maintenant c'est le moment, je dois rassembler ces histoires et les rendre publiques?
En fait, la recherche, elle ne s'est pas arrêtée. C'est, comme je disais avant, c'est vraiment un truc de tous les jours, tout le temps, quand je suis sur Internet ou que je vais chercher des livres. J'ai tout un système d'organisation avec un logiciel qui est fait pour ça un peu. Et je garde plein de choses et je continue à lire. C'est ma passion. Ça s'est pas arrêté. Après, je pense que inconsciemment, j'ai toutes ces recherches, je savais déjà un peu que ça allait devenir quelque chose, un projet éditorial. Mais j'ai eu un peu le déclic pendant la fameuse pandémie, où en fait, je me suis donné un peu un ultimatum, où je me suis dit, il faut vraiment que je me lance dans tout ce que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et donc là, je me suis dit, OK, il faut faire ça assez rapidement. Là, je commence à avoir une bonne base. J'ai aucune idée de comment le faire, mais il faut le faire.
Et donc, tu dis que la recherche est toujours en cours, enfin, que c'est quelque chose qui n'est pas terminé. Est-ce que c'est pour ça que... Parce que le livre, donc, Voix Off, Imprimerie de Femmes, C'est le premier volume d'une collection qui s'appelle Cahier des Tipotes. Et la collection, le principe de collection, ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours en train de se faire, en fait, en train de se construire. Donc, finalement, le premier volume n'est peut-être pas terminé, qu'il y aura voilà, une suite et qui sera peut-être tout autre chose, mais qui, dans ta recherche, apportera un complément ou une nouvelle direction, justement, à ta recherche. Est-ce que c'était ça, justement, de mettre en place une collection de livres? C'était pour imaginer que, de toute façon, il y aurait une suite à cette recherche?
Oui, oui, oui. Et c'est aussi parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'histoires à raconter. Et bon, quand j'ai dit que j'ai trouvé énormément de choses, c'est vrai, mais en même temps, c'est assez paradoxal parce qu'il y a énormément et en même temps, pas beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de livres, bah, surtout en français, sur ces histoires-là. En anglais, j'ai trouvé beaucoup de choses et en espagnol aussi, parce que je suis argentine, donc je parle l'espagnol. En fait, tous les sujets, tous ces histoires et ces collectifs, ça a ouvert des nouvelles portes. Au tout début, en fait, les projets, c'était axé sur les imprimeuses, parce que moi, j'en suis une. Mmh. Et après, petit à petit, en fait, je commençais à voir que c'était plutôt les femmes dans les milieux du livre, finalement. Il y avait aussi les relieuses, les graphistes. Et puis, avec l'arrivée des Fanny aussi, ça s'ouvre... Et puis à d'autres collaboratrices avec qui on travaille. Enfin, il y a toujours, on discute ou quelqu'un qui me dit « Ah, mais est-ce que tu connais ces collectifs-là ou cette imprimerie-là » Et du coup, en fait, c'est vraiment infini, quoi. Donc oui, j'espère qu'on arrivera à en sortir plein d'autres livres. On a une bonne liste avec des bonnes pistes pour les prochains.
Et toutes les deux, comment elles se sont passées les discussions au départ sur... ce premier volume, qu'est-ce que, par exemple, Fanny a pu aussi apporter dans ta recherche ou peut-être une prise de recul aussi sur tout ce que tu as pu collecter?
En fait, elle a apporté son expérience en tant qu'éditrice de la revue FIG. Parce que moi, à l'époque, je faisais surtout de l'édition un peu... c'est plus des fanzines, enfin voilà, des trucs que j'ai sortis en tout petit tirage, un peu sur le manteau et tout. Donc je connaissais pas du tout comment ça fonctionnait, les mondes éditoriaux un peu au plus gros tirage. Donc c'est vrai que Fanny, elle a apporté tout ça. Donc c'était vraiment... j'ai appris énormément de choses. Et puis après, le fait qu'elle soit graphiste, moi je me considère pas du tout graphiste. Donc ça aussi, c'est vraiment super. Et puis après, un autre point de vue, quoi, en tant que professionnel, en tant que graphiste, avec d'autres questionnements. Et puis et c'est ça qui est chouette de travailler avec plein de personnes différentes, c'est que on peut en discuter et ça devient quelque chose de très riche. Enfin, j'espère.
Tu veux dire un mot, Fanny, sur le...
Oui, peut-être sur le comment ça a commencé et comment on est arrivé au livre voix off et le prémisme un peu de toutes ces recherches, ça a été une liste de sujets différents sur des collectifs, sur des femmes, sur des imprimeuses, des dessinatrices de caractère, etc. Et en fait, petit à petit, on a envoyé des mails, on a rencontré des personnes. Et il s'est avéré qu'on a eu des réponses sur plutôt le sujet de cette imprimerie de femmes. Et en fait, voilà, il y a eu une sélection qui s'est faite naturellement. Et on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Et c'est allé assez vite, finalement. On a eu... ça a été une histoire assez, assez belle, avec plein de discussions entre femmes, plein de réponses... On nous donnait énormément de contacts. Il y a eu plein d'échos, en fait, sur cette histoire avec l'imprimerie, voix off. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, toutes les deux, on est parties à la recherche de cette imprimerie et de ces femmes qui, certaines sont encore en vie. Et c'est comme ça que ça a commencé. On ne savait pas où on allait au début. On ne savait même pas quelle forme allait avoir l'objet. Et finalement, tout ça s'est fait... assez simplement, avec l'aide de toutes ces femmes qui ont participé au projet.
Donc, voilà, c'est une histoire vraie. Hein. C'était une imprimerie non mixte, uniquement donc constituée de femmes, qui a existé entre 82 et 88. Et comme le signale la seconde de couverture, enfin la deuxième de couverture, pardon, de l'ouvrage, l'étipote, c'est donc un nom féminin qui signifie ouvrière typographe, ouvrière qui compose les textes destinés à l'impression typographique. Est-ce que vous êtes replacée aussi dans ce terme-là d'ouvrière en faisant ce livre?
Bah oui, complètement. Enfin, moi, je pourrais dire pour ma part, oui, je pense que Fanny aussi. Après, on est très multicasquettes. Donc, c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on aime aussi, dans le fait de pouvoir être un peu dans toutes les places, quoi. Mais oui, moi, je pense personnellement, je ne sais pas, Fanny, est-ce que...
Oui, moi, je pense que on peut, en tant que graphiste et éditrice, se considérer comme ouvrière du livre. En tout cas, pour ma part, oui, je pense. Et pour Natalia, ouvrière imprimeuse, c'est certain, je crois.
À l'intérieur du livre, il y a deux flyers, enfin deux appels aux dons qui datent du moment de l'imprimerie voix off. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que vous avez fait un appel aux dons, il me semble, pour pouvoir financer cette publication et aussi des précommandes. Voilà. Comment c'est venu cette idée d'appel aux dons? Comment on met? Parce que souvent, c'est assez difficile de demander de l'argent. Donc, il y a eu le soutien du CNAP, mais en plus, donc, un financement qui a finalement réuni aussi une communauté en quelque sorte. Vous pouvez nous en parler de comment on finance un projet comme ça?
Donc, en fait, on a été un petit peu dans l'obligation également de trouver des financements. Donc, il nous a paru un peu évident de devoir faire un appel aux dons, un crowdfunding ou un système de prévente. En fait, au départ, on voulait faire un appel aux dons, mais c'est avéré que, en fait, c'est devenu plutôt un appel de prévente, et on s'attendait pas à un tel engouement vis-à-vis de cet appel-là, parce qu'en fait, on en a vendu presque la moitié grâce à tout ça. Et ça a aussi permis de créer un réseau, de créer une communauté. Et je pense que ça nous a aidés pour la suite. Et c'est une solution aussi quand on commence un projet éditorial, je crois. Pour la revue Fig, on avait fait aussi ça. C'est les premières graines déposées.
Juste pour les auditeurs, enfin, et pour ceux qui ne peuvent pas voir les flyers dessus, enfin, sur le recto était marqué, on pourrait faire le coup de la liberté, la pauvreté, la CGT. On veut travailler, mais non, on vous le dit simplement. Et je trouvais qu'il y avait une vérité, quoi, qui est dite, en fait. On va vous dire les choses simplement et on ne va pas le faire peut-être sous une forme militantisme un peu plus officielle, en fait. Et vous aviez pensé peut-être à reproduire ce genre de manifestation, justement, pour produire, je sais pas, des livres, les prochains livres de la collection.
Manifestation, c'est-à-dire
de créer des objets en dehors des cagnottes qu'on connaît, qui sont maintenant dématérialisées, etc. Donc d'aller directement vers le public, vers le lecteur, et d'inventer, en fait, des nouveaux modes de pour rassembler de l'argent, pour rassembler des fonds.
Bah, pour le moment, on n'a pas encore du tout réfléchi à ça.
Mais c'est une bonne idée.
Ouais, c'est une très très bonne idée qu'on garde, on note bien. parce que oui, c'est sûr que j'ai pas envie de dire que les cagnottes, c'est les plus faciles à faire. Mais un peu, oui. C'est-à-dire que oui, avec Internet et tout, c'est assez simple de mettre en place. Et après, il y a un peu des com et tout à faire derrière. Mais oui, c'est assez intéressant. Et ce sont des questions qu'on se pose par rapport au projet, à l'économie du projet, de comment on se positionne par rapport à ça, comment on va faire pour les prochains livres, comment on se positionne par rapport aux subventions, aux aides et tout ça. Et oui, ce sont des questions un peu complexes et qui méritent des...
Mais finalement, avec lesquelles on peut presque essayer de s'amuser, en tout cas, pour que ce soit moins douloureux.
Oui, oui.
Ouais. On se fait un petit temps de lecture pour ceux qui n'ont jamais eu aussi le livre entre les mains. Et au lieu de le résumer, on peut peut-être donner des temps de... Voilà.
Alors là, je vais citer Jocelyne Camblin, qui avait été interviewée par Marie-Victoire Louis. Au départ du projet, on était quatre. On s'est toutes connues par le mouvement. On en avait assez de travailler dans les structures traditionnelles. On a cherché ce qu'on pourrait faire, qui allierait à la fois le militantisme et le travail. On en avait assez, aussi, de faire des trucs dans le bénévolat. Notre première idée, ça a été de faire une maison d'édition. Mais ça demandait trop de moyens financiers. C'était le truc le plus immédiat, parce qu'on lisait beaucoup de revues. Il y a plein de filles qui écrivaient plein de choses, et ça ne sort jamais, parce qu'il n'y a pas d'éditeurs qui prennent les manuscrits. Comme on n'avait pas le fric, pour faire ça, on a dit « bon, on va commencer par le début, c'est-à-dire l'imprimerie ». Ce qui nous plaisait là-dedans, c'était tout le côté technique. C'est un métier très beau, c'est assez fascinant. Il y a tout un rapport à la matière, aux machines. On s'est lancé comme ça. Donc là, je vais vous lire un extrait d'une conversation qu'on a eue avec Florence Fauré-Vidal, une imprimeuse de voix off. Et je me permets aussi de rajouter que Jocelyne, qu'on vient d'écouter, était aussi une imprimeuse de voix off. Nous vivions dans un milieu alternatif et étions très impliqués dans le MLF, mouvement qui fonctionnait de façon informelle. Nous voulions faire une imprimerie de femmes pour que le produit de notre travail ne nous échappe pas, pour faire un travail un peu plus près de nos préoccupations. Mais nous n'étions pas une imprimerie parallèle, parce que nous faisions aussi des travaux pour le quartier ou des publications pas particulièrement féministes. J'aimais beaucoup imprimer. Cela me fascinait de voir toutes ces feuilles sortir du ventre de cette machine. Pour moi, qui n'avais jamais exercé de travail manuel, la transformation de ces feuilles vierges en feuilles imprimées tenait de la magie. J'aimais l'odeur de l'encre, j'aimais la malaxée. J'aimais ce bruit régulier. Ce plaisir existait surtout sur nos vieilles machines mécaniques où nous pouvions tout contrôler. Quand, grâce à une subvention du ministère des Droits de la Femme, nous avons pu en acquérir une quasi neuve, électronique, cela n'a plus été la même chose. Quand elle tombait en panne, nous devions faire appel à un réparateur.
Et donc moi, je vais lire un dernier extrait du texte, du témoignage de Suzette Robichon. Ces années 70-80 sont les années de l'explosion des initiatives féministes. Nous apprenons alors beaucoup par nous-mêmes. On discute énormément, mais l'écrit a une grande importance. Tout se met en place. Des revues, des maisons d'édition, une librairie féministe à Paris, un atelier de rayure, et enfin, une imprimerie, voix off, alliance entre utopie et fabrication pour imprimer ce qui permettait de penser à notre futur, ce qui resterait peut-être dans les tiroirs.
Merci. Est-ce que de lire le témoignage de ces femmes, notamment de l'accessibilité à une pratique technique, est-ce que vous êtes retrouvée dedans? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est plus accessible aujourd'hui pour les femmes d'accéder à des pratiques manuelles que peut-être, ou peut-être qu'on en parlait moins aussi dans ces années-là, dans les années 80, de ces femmes techniciennes aussi? Est-ce que c'est plus accessible aujourd'hui?
Oui et non, j'ai envie de dire. Je pense que par rapport à l'imprimerie, en tout cas, j'ai l'impression que ça reste quand même un milieu qui est bien masculin. Enfin, il faut juste aller chercher des conductrices offset dans les ateliers. Et ça reste quand même quelque chose de très, très rare. Nous, on s'est rendu compte de ça, puisqu'on est dans un projet non mixte. Donc, toutes les étapes de fabrication du livre sont gérées par des femmes. Donc, c'est un peu notre contrainte, mais aussi, c'est important pour nous de mettre en avant le travail de nos collègues. Mais oui, après, on voit, il y a plein de petits ateliers et de plus en plus, depuis les temps, des initiatives féministes et des initiatives non mixtes pour se former entre femmes et pour faire des choses et pour imprimer, pour éditer.
Je pense que chaque domaine chaque domaine est très différent. C'est-à-dire que dans le milieu de l'imprimerie, moi, en tant que graphiste, je me rends bien compte que oui, il y a bien plus d'hommes derrière des machines que de femmes. Néanmoins, dans mon réseau de graphistes, on s'en rend bien compte depuis, je crois, à l'ère un peu du numérique, qu'il y a de plus en plus de femmes, en tout cas, qui pratiquent ce métier. Mais il y a encore, je pense, des inégalités dans le sens, par exemple, le métier de dessinateur, dessinatrice de caractère, on sent, oui, il y a de plus en plus de femmes, mais je pense qu'il y a encore énormément d'hommes dans ce domaine-là. Dans l'imprimerie, je pense que il y a énormément de collectifs de femmes qui sont créés dans le dans ce domaine-là, mais en règle générale,
ça reste un milieu très masculin.
Oui, je crois. Ouais.
Juste une petite dernière question sur la composition et le design du livre. Il y a deux caractères qui sont utilisés. La canif, qui a été dessinée par Axel Pelletan chez Building Paris, et la tongari, qui a été dessinée par Émilie Rigaud. Donc la canif, elle est plutôt utilisée pour les informations techniques, pagination, notes de bas de page. Là, en l'occurrence, elles ne sont pas en bas de page, mais voilà. Et l'autre, la tongari, pour le texte courant. Est-ce que tu peux nous raconter le choix que tu as fait sur cette typographie et sur la mise en place du texte?
Oui, je peux même vous avouer une anecdote. On pensait que Axel Pelletan était une femme au départ. Parce qu'en fait, elle est éditée par Émilie. Cette typo est éditée par la fonderie d'Émilie Rigaud. Et en fait, l'idée, c'était quand même de choisir des caractères dessinés par des femmes. Il s'est avéré que Émilie Rigaud a travaillé sur cette typo également, mais elle a été dessinée et elle est à l'initiative d'Axel. Alors le choix, on en a choisi plusieurs. On a fait des listes. On les a essayées et très vite, on a été très séduite par la tongari pour le texte, pour sa lisibilité. C'est une typo qui se lit très bien. C'est vraiment une typo de labeur. Et pour la CNIF, on voulait quelque chose. Enfin, le choix s'est porté sur une typo assez incisive et à la fois assez assez fine pour être dans quelque chose de très neutre. Pareil dans la mise en page. Il y a très peu de variantes de style, de corps, et ça, c'était un parti pris graphique qui était important, où on voulait un gris assez neutre, une unité vraiment...
très peu de hiérarchie.
C'est ça, pas de hiérarchie, et dans un gris le plus neutre possible et plus stable possible.
On va s'arrêter là. Merci Natalia Paes-Passaquin et Fanny Millon d'avoir accepté de discuter de voix off et de votre collectif avec nous aujourd'hui à Offprint.
Merci.
Merci à vous.